Il se retrouva dans une salle toute blanche, garnie d'un bureau métallique, de sièges et de meubles métalliques, le tout vissé au sol. Une chambre d'hôpital, stérile et froide, avec un éclairage trop cru. Il y avait même à droite une bascule portant l'inscription « Laissez le soin du réglage aux techniciens exclusivement ». Deux agents revêtus de l'uniforme de la police du comté d'Orange l'attendaient. Ils arboraient aussi des insignes médicaux.
« Vous êtes l'agent Fred ?»
fit l'un d'eux, un type aux moustaches en guidon de vélo.
« Oui, monsieur. »
Fred avait la trouille.
« Bien, Fred, je ne vous apprendrai sans doute rien en disant que vos présentations de rapports et vos séances d'instruction sont enregistrées et soumises à l'étude, dans le but de relever tout élément qui aurait pu passer inaperçu lors des entretiens proprement dits. C'est la procédure normale, naturellement, et elle s'applique à tous les agents qui rendent compte verbalement de leur mission, pas uniquement à vous. »
L'autre médico intervint.
« Il en va de même pour toutes les autres formes de contact que vous entretenez avec le service, telles que les appels téléphoniques et activités annexes du genre de votre récent discours devant les membres du Rotary Club d'Anaheim.
Il s'agit du Lions Club.
« Fred, prenez-vous de la substance mort ?» demanda le type de gauche.
« C'est une question de pure forme, » précisa son collègue, « car nous considérons que vous y êtes tenu dans le cadre de vos activités. Donc, inutile de répondre. Non que cela vous incriminerait, mais je le répète, il s'agit d'une partie de la procédure. »
L'homme indiqua une table recouverte d'un bric-à-brac où des cubes de plastique bariolés voisinaient avec d'autres objets que Fred ne put identifier.
« Allez vous asseoir là-bas, agent Fred. Nous allons vous soumettre à une série de tests élémentaires. Ça ne prendra pas beaucoup de votre temps et c'est absolument sans douleur. »
Au sujet de ce discours, cette séance est motivée par une enquête menée récemment dans le service et dont les conclusions indiquent qu'au cours du mois écoulé, un certain nombre d'agents secrets affectés à ce secteur ont été admis dans des cliniques neurologiques pour aphasiques.
Guidon de vélo qui venait de parler se munit d'un stylo, de quelques formulaires et s'installa en face de Fred.
Vous êtes conscient que l'usage de la substance M entraîne un risque élevé de dépendance ?
Demanda le collègue.
Bien sûr, j'en suis conscient.
Nous allons vous faire subir ces tests dans un ordre précis, reprit le moustachu. En commençant par celui que nous nommons BG ou...
Vous pensez que je suis devenu toxico ?
Que vous le soyez ou non importe peu, car d'ici 5 ans, l'armée aura mis au point un agent stabilisateur. Ces tests ne concernent pas les propriétés addictives de la substance M, mais...
Écoutez, laissez-moi d'abord vous administrer ce test de détection des formes destiné à mesurer votre aptitude à distinguer une forme de son contexte. Vous voyez ce diagramme ?
L'homme plaça un croquis sous les yeux de Fred.
Parmi toutes ces lignes, apparemment dépourvues de sens, se dissimule un objet connu de tous. À vous de me dire ce qu'est...
Pièce au dossier. En juillet 1969, Joseph Bogen publia son article révolutionnaire « L'autre côté du cerveau, un esprit en apposition ». Dans ce texte, Bogen citait l'obscur docteur A.L. Wigan, qui écrivait en 1844. Semblable aux organes qui agissent sur lui, l'esprit est essentiellement double. Depuis que cette idée s'est présentée à moi, j'ai consacré plus d'un quart de siècle à son examen sans parvenir à trouver une réfutation valable, voire simplement plausible à lui opposer. Je m'estime donc en mesure de prouver 1. Que chaque cerveau, en tant qu'organe de pensée, forme un tout parfaitement distinct. 2. Qu'un processus mental distinct peut être mené simultanément dans chaque cerveau. Dans son article, Bogen conclut ainsi « Je pense, avec Wigan, que chacun d'entre nous possède 2 esprits à l'intérieur d'un même individu. L'argumentation de cette thèse exige l'agencement d'un grand nombre de détails. Toutefois, nous devons finalement affronter la principale résistance au vu de Wigan. Je fais allusion à ce sentiment d'unité ressenti subjectivement par chacun d'entre nous. Cette intime conviction d'être un est particulièrement chère au cœur de l'homme occidental.
Cet objet et de me l'indiquer sur le croquis.
On se fout de moi, pensa Fred.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Demanda-t-il en regardant l'agent et non le croquis. Je parie que c'est mon discours au Lions Club.
Il n'en doutait plus.
Le moustachu ne releva pas.
Chez de nombreux usagers de la substance M, il se produit une rupture entre les hémisphères cérébraux. Il y a perte de l'intégration consciente qui affecte aussi bien le dispositif perceptif que le dispositif cognitif, bien qu'en apparence, celui-ci continue de fonctionner normalement. Mais comme ce qu'il reçoit de l'appareil perceptif se trouve maintenant contaminé par le dédoublement, il cesse peu à peu de fonctionner et se détériore à son tour. Avez-vous localisé l'objet familier dans ce croquis? Pouvez-vous me l'indiquer? Vous ne faites pas allusion à la présence de traces de métaux lourds dans les emplacements neurorécepteurs, n'est-ce pas? À l'irréversibilité de...
Non.
Cette fois, l'autre agent prit la parole.
Il ne s'agit pas de lésions, mais d'une forme de toxicité cérébrale, une psychose toxique qui affecte le système perceptif en le scindant. Ce que vous avez devant vous, le test BG, mesure le degré d'exactitude avec lequel votre système perceptif peut agir comme un tout unifié. La voyez-vous, cette forme? Elle devrait vous sauter aux yeux.
Je vois une bouteille de coca.
La réponse correcte est une bouteille de soda,
fit le médico assis. Il escamota prestement le premier croquis et le remplaça par un autre. Avez-vous remarqué quelque chose en étudiant mes présentations de rapport, mes séances d'instruction? Demanda Fred. Quelque chose qui cloche? C'est ce foutu discours. Et ce discours que j'ai prononcé, ai-je manifesté un dysfonctionnement bilatéral à ce moment-là? Est-ce la raison pour laquelle on m'a traîné ici, afin de subir ces tests? Il connaissait la littérature concernant ces expériences de split brain, qui provoquent un dédoublement du cerveau par section des commissures réunissant les deux hémisphères. Le service communiquait occasionnellement quelques documents à ses agents.
Non, répondit Guy Dondvelo. Ceci n'est que de la routine. Agent Fred, nous sommes parfaitement conscients que ceux d'entre vous qui travaillent sous couverture doivent absorber des drogues dans le cadre de leur mission. Ceux qui ont dû être admis dans des cliniques...
À titre permanent?
Non, ils ne sont pas nombreux dans ce cas-là. Je le répète, il s'agit d'une simple contamination du système perceptif qui pourrait se corriger avec le temps et...
Du brouillard. Rien que du brouillard. Ça brouillasse surtout.
Avez-vous des interférences?
Demanda tout à coup l'un des agents. Comment ça? Dit Fred, incertain.
Interhémisphérique. Lorsque l'hémisphère gauche, où sont normalement localisées les fonctions du langage, est endommagé, il arrive que l'hémisphère droit le supplante au mieux de ses capacités.
Je ne sais pas pour les interférences. Pas que j'ai remarqué.
Des pensées qui ne vous appartiennent pas. Comme si une autre personne, un autre esprit, pensait en vous. Mais d'une manière qui diffère de vos propres processus habituels. Jusqu'à des mots d'une langue étrangère que vous ignorez. Des mots acquis par perception marginale au cours de votre vie.
Rien de tel. Je m'en serais rendu compte.
Oui, c'est probable. Si l'on se fie aux témoignages des gens qui ont souffert de lésions de l'hémisphère gauche, l'expérience est plutôt affreuse. On pensait jadis que la dominance cérébrale de l'hémisphère gauche dans le langage était totale, mais c'était avant que des tas de gens bousillent leur hémisphère gauche par les drogues et donnent au droit une chance d'entrer en scène, de pallier le manque.
Je guetterai le moindre signe, soyez tranquille, dit Fred, conscient du côté mécanique de sa diction qui rappelait l'écolier appliqué. Dac pour obéir aux mornes directives des représentants de l'ordre. Les plus gros que lui, ceux qui sont en position d'imposer leur volonté, qu'elle soit raisonnable ou pas. Tu oublies. Un point s'émare. Fais ce qu'on te dit.
Que voyez-vous sur ce second dessin?
Un mouton?
Montrez-le-moi.
Guy Dondvelo se pencha en avant et fit tourner le dessin.
Une altération de l'aptitude à distinguer une forme de son contexte, ça peut vous donner les pires ennuis. Au lieu de ne percevoir aucune forme, on perçoit des formes incorrectes.
Par exemple, la merde de chien, songea Fred. Comme forme incorrecte, ça se pose un peu là. Selon tous les critères, il se... Les données disponibles indiquent que l'hémisphère dominé, le muet, possédant surtout des capacités de synthèse dans le traitement des informations reçues, se spécialise dans la perception gestalt. Par contraste, l'hémisphère dominant fonctionne de façon plus analytique, logique, à la façon d'un ordinateur. Les résultats suggèrent qu'une raison possible de la latéralisation hémisphérique chez l'homme tient à une incompatibilité fondamentale entre les fonctions linguistiques et la perception synthétique. Sentait malade, déprimé,
presque comme lors de son discours au Lions Club. Il n'y a pas de mouton là-dedans, n'est-ce pas? Étais-je loin du compte?
Il ne s'agit pas d'un test de Rorschach, dit le moustachu, où une tâche imprécise peut être interprétée de diverses manières, par divers sujets. Ici, nous avons affaire à un objet spécifique, conçu et dessiné de manière à ne pouvoir être confondu. Dans le cas qui nous occupe, c'est un chien.
Un quoi?
Un chien. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer?
Il ne voyait pas le moindre chien.
Montrez-le-moi.
Le médico... Cette conclusion provient d'expériences de split brain menées chez les animaux, dont on peut entraîner chaque hémisphère à percevoir, à réfléchir et à agir de façon autonome. Chez l'homme, où la latéralisation de la logique propositionnelle est nette, l'autre hémisphère se spécialise dans un mode de pensée différent que nous pourrions nommer appositionnel. Les règles ou méthodes selon lesquelles s'élabore, de ce côté-ci du cerveau, le côté qui parle, lit et écrit, la logique propositionnelle ont longtemps été soumises à des analyses de syntaxe, de sémantique, de logique mathématique, etc. Les règles d'élaboration de la pensée appositionnelle, de l'autre côté du cerveau, demanderont à être étudiées pendant encore de nombreuses années.
Retourna le Bristol. Au verso se trouvait le dessin rudimentaire d'une silhouette de chien, et Fred reconnaissait à présent la forme enfouie dans le fouillis de lignes du recto. Il s'agissait même d'une race bien précise, un lévrier, dont on reconnaissait le ventre creux.
Et ça veut dire quoi, que j'ai vu un mouton à la place?
Sans doute un simple blocage psychologique,
fit le médico resté debout en reposant le poids de son corps d'une jambe sur l'autre.
Ce n'est qu'une fois toute la série de dessins examinés et les autres tests.
Le moustachu lui coupa la parole tout en présentant un nouveau dessin.
La supériorité de ce test sur le Rorschach tient à ce qu'il ne fait pas appel à l'imagination. Il y a autant de solutions fausses que vous pouvez en imaginer, mais il n'y en a qu'une d'exacte. Celle qui a été dissimulée dans chaque dessin par le service de psychographie des États-Unis et certifiée bonne par lui. La vérité, elle est là, parce qu'elle nous vient de Washington. Vous saisissez ou vous ne saisissez pas, et si vous manifestez une tendance à ne pas saisir, ça veut dire qu'on tient chez vous une altération fonctionnelle de la perception et on vous met au sec pendant quelque temps jusqu'à ce que vous passiez les tests correctement.
Dans une clinique fédérale?
Oui. Bon, à présent, que voyez-vous dans ce dessin parmi les lignes noires et blanches?
Morville, se dit Fred en étudiant le dessin. Voilà ce que je vois. La mort plurielle, et pas seulement dans sa forme convenue. La mort partout. Des petits exécuteurs de 3 pieds de haut dans des voitures d'infirmes. Dites-moi tout de même, est-ce mon discours du Lions Club qui vous a mis la puce à l'oreille?
Non, finit par dire le mec debout. C'est venu d'un échange qui, disons-le, n'était pas service-service. Hank et vous en train de discuter le bout de gras il y a une quinzaine de jours. Comprenez bien qu'il y a toujours un décalage d'ordre technologique dans le traitement de tout ce fatras, de la crue d'informations qui nous submerge. On n'en est pas arrivé à votre discours. Ça prendra bien encore 2 jours.
Alors qu'est-ce que c'était que cette discussion?
Une histoire de bicyclette volée, répondit le moustachu. Une prétendue bicyclette à 7 vitesses. Vous vous demandiez où étaient passées les 3 vitesses manquantes, vous y êtes?
Une fois de plus, les médicaux échangèrent un regard.
Vous supposiez qu'elle traînait toujours sur le sol du garage où le vol avait eu lieu.
Minute, protesta Fred. C'était la faute à Freck, pas la mienne. Il en a fait une montagne de cette histoire. Moi, je trouvais juste ça marrant.
Barris, planté au milieu du living, l'air très satisfait, avec un grand vélo flambant neuf.
Regardez ce que j'ai eu pour $20.
Freck, qu'est-ce que c'est?
Barris.
Un vélo de course à 10 vitesses, et t'as presque 9. Je l'ai repéré dans le jardin des voisins, je me suis renseigné, ils en avaient 4. Alors j'ai offert $20 cash, et ils me l'ont vendu. C'était des noirs. Ils me l'ont même passé par-dessus la barrière.
Luckman. Je ne savais pas qu'on pouvait se procurer un 10 vitesses presque 9 pour $20. Marrant ce qu'on peut obtenir pour ce prix-là.
Donna.
Il ressemble à celui que la fille qui habite en face de chez moi s'est fait piquer le mois dernier. C'est sans doute ces noirs qui ont fait le coup.
Arctor.
C'est sûr, s'ils en ont 4 et qu'ils les revendent si bon marché.
Donna.
Tu devrais le rendre à ma voisine, si c'est bien le sien. Ou tu devrais au moins le lui montrer pour qu'elle voie si c'est celui-là.
Barris.
C'est un vélo d'homme, donc impossible.
Freck, pourquoi dis-tu qu'il a 10 vitesses alors que j'en vois que 7?
Baris, surpris.
Quoi?
Freck, allant jusqu'au vélo pour prouver ses dires.
Regarde, 5 vitesses ici et 2 à l'autre bout de la chaîne.
5 et 2? Quand le chiasma d'un singe ou d'un chat est divisé suivant un plan sagittal, les informations fournies à l'œil droit ne sont communiquées qu'à l'hémisphère droit, et il en va de même pour l'autre hémichamp. Un animal ayant subi cette opération peut être entraîné à choisir entre deux symboles au moyen d'un seul œil, et des tests ultérieurs montreront qu'il est capable d'accomplir le choix correct au moyen de l'autre œil. En revanche, si les commissures, et particulièrement le corps calleux, ont été sectionnées avant la phase d'entraînement, l'œil initialement masqué et son hémisphère ipsilatéral doivent être entièrement rééduqués. Autrement dit, l'éducation n'est pas transmise d'un hémisphère à l'autre s'il y a eu section préalable des commissures. C'est ce que montrent les travaux fondamentaux de Myers et Sperry. 1953, Sperry, 1961. Myers, 1965, Sperry, 1967.
Égale 7. Ça donne qu'un vélo à 7 vitesses.
Luckman.
Oui, mais même un vélo à 7 vitesses, ça vaut le coup à $20. C'est quand même une bonne affaire.
Baris, piqué au vif.
Ces noirs m'ont dit qu'elle possédait 10 vitesses. C'est de l'arnaque.
Tout le monde s'assemble pour examiner la bicyclette. Il compte et recompte les vitesses.
Freck. À présent, j'en compte 8. 6 devant, 2 derrière, ça fait 8.
Arctor, logique.
Mais il devrait y en avoir 10. Les vélos à 7 ou 8 vitesses, ça n'existe pas. Pas à ma connaissance. Qu'est-ce qui a pu arriver aux vitesses qui manquent?
Baris.
Ces noirs ont dû trafiquer le vélo, le démonter sans disposer des outils adéquats, ni des connaissances techniques nécessaires, et quand ils l'ont remonté, ils ont laissé 3 vitesses par terre. Elles sont sans doute encore sur le sol de leur garage.
Luckman.
Dans ce cas, on devrait aller les leur réclamer.
Baris, ruminant sa colère.
Mais c'est sans doute là l'arnaque. Ils proposeraient de me les revendre au lieu de me les donner comme ils devraient. Je me demande ce qu'ils ont abîmé d'autre.
Il quête l'approbation générale.
Donna. Tu es bien sûr qu'il n'y a que 7 vitesses?
Freck. 8. Donna.
7, 8, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'aller là-bas, tu ferais bien de te renseigner. Ce vélo ne m'a pas l'air d'avoir été démonté. Avant d'aller les engueuler, sois sûr de ton affaire, tu me suis?
Arctor.
Elle a raison.
Luckman.
Mais à qui demander? Qui connaît-on comme autorité en matière de vélo de course?
Freck. On n'a qu'à demander au premier venu. Sortons le vélo et le premier freak qui se présente, on lui demande. Comme ça, on aura un point de vue désintéressé.
Tous ensemble, ils sortent le vélo devant la maison et tombent aussitôt sur un jeune noir en train de garer sa voiture. Ils lui montrent les 7-8 vitesses et lui demandent de leur indiquer le nombre exact, quoique tous, à l'exception de Charles Freck, puissent voir qu'il n'y en a que 7. 5 à un bout de la chaîne et 2 à l'autre. 5 et 2 égale 7. Ils le voient de leurs propres yeux, alors quoi?
Le jeune noir, calme.
L'astuce, c'est qu'il faut multiplier le nombre de vitesses de l'avant par celui de l'arrière.
Multiplier, pas additionner. Parce que voyez-vous, la chaîne saute d'une vitesse à l'autre, ce qui vous donne proportionnellement 5, il indique les 5 vitesses, fois l'une des 2 vitesses avant, il les désigne également, soit 5 fois 1, qui font 5, puis lorsque vous actionnez le levier sur le guidon, il fait la démonstration, et que la chaîne saute à l'autre vitesse avant, encore 5 fois 1. 5 et 5, 10. Vous voyez comment ça marche? On obtient toujours les vitesses en...
Il le remercie et ramène en silence le vélo à l'intérieur de la maison. Le jeune noir, qui n'a pas plus de 17 ans et l'aurait parfaitement inconnu, achève de ranger son vieux modèle commercial incroyablement déglingué. Il referme la porte et reste planté dans l'entrée.
Luckman. Quelqu'un a de la cam? La cam isole de force.
Personne. Toutes les expériences prouvent que la séparation des hémisphères crée deux hémisphères indépendantes de conscience sous un seul crâne, c'est-à-dire à l'intérieur d'un seul organisme. Ce résultat dérange un certain nombre de gens qui voient dans la conscience une propriété indivisible du cerveau humain. À d'autres, selon lesquels les capacités de l'hémisphère droit ne dépassent pas le niveau de simple automatisme, ce même résultat semble prématuré. Assurément, l'inégalité hémisphérique existe chez les sujets examinés, mais il se peut qu'elle soit uniquement caractéristique des 10 sujets. On peut parfaitement envisager que le dédoublement du cerveau chez un sujet très jeune favorise le développement séparé par chaque hémisphère de fonction mentale élevée, de l'ordre de celles qui sont uniquement développées chez l'individu normal par l'hémisphère gauche.
Neuri.
Nous savons que vous faisiez partie de ce groupe, fit le moustachu. Peu importe votre rôle. Aucun d'entre vous n'a été capable, en examinant le vélo, de reconnaître la simple opération mathématique qui permet de déterminer le rapport de démultiplication élémentaire de l'engin.
Fred sentit presque de la compassion dans la voix du médico, juste une petite dose de gentillesse.
Une opération comme celle-là sert de test d'aptitude dans les collèges techniques. Étiez-vous tous défoncés ?
Non.
On fait passer des tests comme ça à des enfants, insista l'autre médico.
Alors, qu'est-ce qui clochait, Fred ? Reprit le moustachu.
J'ai oublié.
Il se tut, puis... À mon avis, ça ressemble plutôt à un cafouillage des facultés cognitives, et pas perceptives. La pensée abstraite n'intervient-elle pas dans une situation comme celle-là ?
Pas. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais les tests montrent que le système cognitif échoue parce qu'il ne reçoit pas des données correctes. En d'autres termes, les informations reçues sont déformées de manière que, lorsqu'on veut les traiter abstraitement, on raisonne mal parce qu'on ne...
Le médico essaya d'exprimer ce qu'il voulait dire d'un geste.
« Mais un vélo à 10 vitesses en possède bien 7, » dit Fred. « Nous l'avons perçu correctement. 2 devant, 5 derrière. »
Seulement, ce qu'aucun de vous n'a perçu, c'est leur interaction. 5 derrière avec chacune des 2 devant, comme le noir vous l'a expliqué. Était-ce un homme très instruit ?
Probablement que non.
Ce qu'il a vu différait de ce que vous tous vous avez vu. Il a vu 2 lignes indépendantes reliant l'avant au dispositif des vitesses arrière, 2 lignes qu'il a perçues simultanément entre les vitesses placées à l'avant et chacune de celles situées à l'arrière. Vous n'en avez vu qu'une.
Mais alors ça ferait 6 vitesses, 2 à l'avant, dont une reliée à l'arrière.
Ce qui est une perception erronée. Personne n'avait expliqué la chose à ce garçon noir. Ce qu'on lui avait appris, si tant est qu'on le lui ait appris, consistait à reconnaître par le raisonnement le rôle de ces 2 lignes. L'une d'elles vous a totalement échappé. Bien qu'ayant compté 2 vitesses avant, vous les avez perçues comme un ensemble homogène.
J'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Quelle prochaine fois ? Quand vous achèterez à nouveau une bicyclette à 10 vitesses déjà piquée quelque part ? Ou au moment de traiter abstraitement tout le perçu de la journée ?
Fred resta silencieux.
« Continuons le test, » enchaîna le moustachu. « Que voyez-vous dans celui-ci, Fred ?
De la merde de chien en plastique, comme il s'en vend ici, du côté de Los Angeles. Je peux partir à présent ?»
Ça recommençait comme au Lions Club.
Mais sa réplique lui valut tout de même les rires des 2 agents.
« Vous savez, Fred, » fit Guidon de vélo, « si vous continuez à garder le sens de l'humour, vous vous en tirerez peut-être. »«
M'en tirer ? Me tirer de quoi ? Des flûtes ? Du pétrin ? Me tirer en douce ? À bon compte ? Avec 20 ans ? Tirer au flanc ? Sur la ficelle ? La couverture à moi ? Précisez vos termes. Moi, c'est plutôt ma crampe que j'ai envie de tirer. Parce que j'ai pas... »
Le cerveau des mammifères supérieurs, y compris celui de l'homme, est un organe double composé de 2 hémisphères reliés par un isthme de fibres nerveuses appelé corps calleux. Il y a une 15aine d'années, Ronald E. Myers et R. W. Sperry firent cette étonnante découverte. Lorsqu'on sectionne ce lien entre les 2 moitiés du cerveau, chaque hémisphère se met à fonctionner de façon autonome, comme un cerveau complet.
Pris mon pied sur ce plan-là depuis assez longtemps. Puisque vous êtes des psychologues, vous autres, et que vous avez écouté mes parlottes interminables avec Hank, dites-moi donc un peu comment m'y prendre avec Donna. Sur quel bouton faut-il appuyer ? Que faire avec ce genre de petite nana douce mais entêtée ?
Chaque fille est différente, répliqua le moustachu.
Mais je veux dire l'approcher honnêtement. Je ne parle pas de la bourrée d'alcool et de barbitos pour se l'embourber pendant qu'elle est écroulée sur la moquette du living.
Achetez-lui des fleurs, suggéra l'autre agent.
Quoi ?
Les yeux brouillés s'écarquillèrent.
À cette époque de l'année, on trouve des petites fleurs printanières. Allez faire un tour à la pépinière de Penny's ou du Kmart, ou achetez-lui une azalée.
Des fleurs,
murmura Fred. « Vous voulez dire en plastique ou bien des vrais ?»«
Des vrais, je suppose. » »«
Des fleurs en plastique ne vous serviront à rien, » commenta le moustachu. « Elles ont toujours l'air bidon, quoi. Ça fait bidon d'une manière ou d'une autre. »«
Est-ce que je peux partir à présent ?»
Les deux médicaux se regardèrent, puis hochèrent la tête.
« On vous fera subir des tests une autre fois, Fred, » fit celui qui était resté debout. « Ça ne presse pas tellement. Hank vous notifiera un nouveau rendez-vous. »
Pour quelque obscure raison, Fred eut envie de leur serrer la main, mais il se garda de le faire. Il se contenta de sortir sans un mot, l'air un peu abattu, intrigué aussi, probablement parce que cette histoire lui était tombée dessus sans crier gare. « Ils ont repassé tout le matériau me concernant, dans le but de détecter des signes de mon déséquilibre, et ils en ont trouvé. » Suffisamment pour juger bon de me faire passer ces tests. Des fleurs printanières, songea-t-il en prenant l'ascenseur. Des toutes petites, elles poussent sans doute si près du sol que des tas de gens marchent dessus. Poussent-elles à l'état sauvage, ou dans des bacs, dans de vastes pépinières? Je me demande à quoi ressemble la campagne. Les champs, les odeurs étranges, ce genre de choses. D'ailleurs, où trouve-t-on tout ça? Où doit-on aller? Comment y parvient-on? Et comment fait-on pour y demeurer? Quel genre de voyage est-ce là? Et quel genre de billet prend-on? Et à qui l'achète-t-on ce billet? J'aimerais emmener quelqu'un avec moi le jour où je me paierai ce voyage. Peut-être Donna. Mais comment demande-t-on ça à une fille quand on ne sait même pas faire le premier pas vers elle? Quand on tire des plans à son sujet sans aboutir à rien de concret? On devrait pourtant faire vite, parce que les fleurs dont ils m'ont parlé, plus tard, elles seront mortes.